Bonjour Steven. Bonjour à d'autres. J'espère que tu as reçu ma lettre aujourd'hui, cher Tati, Tate, Bobby, Tate. C'est un nom que je ne comprends pas pourquoi tu as choisi ça, mon ami, mon frère. Mais voilà. J'espère que tu as reçu ma lettre. Oui, ok. Merci. Bonjour Annette. Que Dieu te garde, te bénisse. Alors, voici, je pense à lire, avant de commencer la méditation d'une épître, l'épître de Jude, je commence par des psaumes, si vous voulez bien. Les psaumes viennent du cœur, mais aussi de l'Esprit Saint qui travaillait le cœur de David. Voilà. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. On peut dire, il y a d'autres psaumes du même style, on peut dire que David a eu des visions glorieuses de Dieu. C'est évident. Et quand on voit à certains moments les égarements de sa vie et tout, on sait que c'est l'appel de Dieu, c'est l'élection divine sur lui qui a été première. C'est pas sa qualification. Bien sûr, Dieu l'a qualifié après de bien des manières, mais c'est le Saint-Esprit qui agit puissamment en lui pour écrire les psaumes, pour lui révéler des choses du ciel, pas de la terre. Verset 3, psaume 63, verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta beauté, ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc, analysons un peu ces choses. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Voilà déjà que Dieu est visible. Dieu s'est montré. Deux, dans un sanctuaire céleste, un temple divin, qui descendra un jour sur terre, la Jérusalem céleste, Apocalypse 21 et 22. Ensuite, il y a autre chose, c'est que Dieu est puissant et glorieux. Ce n'est pas une puissance comme celle des hommes, une puissance comme celle de Satan, c'est la vraie puissance totale, plénière, et la gloire incomparable, sans tache, sans péché. Et ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Donc, à travers la puissance et la gloire et la contemplation de Dieu, David sait que Dieu a un regard favorable sur l'homme, a un amour pour l'homme, un amour pour le pécheur. Et ça, Abraham l'avait aussi. Cet amour pour le pécheur, c'est ce qui fait que le cœur se laisse séduire et aime Dieu malgré la disgrâce qui est en nous, malgré la chute, le péché qui est toujours à l'œuvre. Et l'homme qui se jette dans les bras de Dieu, qui accepte sa grâce, va au-delà de ce qu'il aurait pu espérer, c'est-à-dire que Dieu lui pardonne ses fautes. Il faut reconnaître ce que Dieu est pour lui-même. C'est la démarche fondamentale du vrai croyant. Et c'est Dieu qui fait grâce pour les nombreux péchés et qui nous colle à la peau. Alors, j'élèverai mes mains en ton nom. J'étais dans une église dernièrement, hier. J'étais pas dans mon assemblée, j'étais autre part et je voyais le prédicateur, celui qui présidait le culte, pendant les chants, la louange. Il ne savait pas trop où mettre ses mains parce que il y a une certaine habitude chez les baptistes de ne pas élever les mains en l'air ou de les mettre comme ça devant soi. Bon, on évite ça pour ne pas ressembler aux pentecôtistes. Et finalement, il était un petit peu, je dirais, gauche, embêté avec ses mains, il les a mis dans ses poches. Alors qu'il aimait, on voyait, cet homme priait, louait le Seigneur, et avait un cœur vraiment pour Dieu, et présidait avec foi et avec un très grand respect de Dieu et un grand amour de l'Assemblée. Mais il ne savait pas où mettre ses mains. Nous sommes un petit peu engoncés, gêné avec nos mains dans le milieu baptiste. Et il est clair qu'il y a des assemblées où on lève les mains le plus haut possible à tout bout de champ. Bon, c'est l'autre excès. Il y a deux excès, vous voyez. Donc ici, je lèverai mes mains en ton nom. C'est clair que élever ses mains humblement, discrètement et sans en faire un grand théâtre, c'est quelque part dire « Mon Seigneur, je t'acclame, je t'accueille, je te reçois. » Quand vous avez un enfant, vous tendez vos bras, vos mains. Quand vous avez quelqu'un que vous aimez, que vous vous approchez, vous tendez vos bras, vous l'entourez, vous l'embrassez. Et donc, élever les mains n'est pas forcément négatif. Élever les mains est un signe d'affection profonde, un signe de communication amoureuse, je veux dire. S'il n'y a pas réellement la foi et l'amour de Dieu, bien sûr, ce sont des singeries, comme on appelle ça. Donc, je te bénirai en toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes amis, n'ayez pas peur d'élever vos mains, sans en faire une habitude irréfléchie et folle, sans vouloir que les autres lèvent les mains tous, lever les mains, parce que vous élevez votre cœur, votre âme vers Dieu. Et vous lui portez tout l'amour qui est en vous, vous lui apportez tout l'amour que vous avez reçu, vous lui rendez. Alors, mon âme sera rassasiée de mets gras et succulents, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche se célébrera. Il est clair que, quand David dit ça, il n'y a pas de temple. Le temple n'est pas construit, c'est plus tard. C'est plus tard qu'il est construit, en 970, 970. 70, il est construit. Il a pris 7-8 ans pour être construit, voilà. Pratiquement, chers amis, s'il y a quelque chose qui est dans le cœur de David, de nouveau, c'est quelque chose de révélé. Et ça a été révélé plus tard à Ésaïe aussi. Au chapitre 25, versets 6 à 9, on voit qu'il y a un grand banquet à Jérusalem où il y a des mets succulents. Il y a vraiment des vins vieux, clarifiés, où le voile qui est sur les nations disparaît, le voile de la mort. Donc, c'est un repas festif, solennel, où la victoire sur le péché et ses suites, c'est-à-dire souffrance, douleur et mort, tout ça est déterminé, est fini. Et donc, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche se célébrera. C'est la confession de foi d'un royaume messianique, d'une venue messianique de Jésus sur terre qui réunit les croyants à Jérusalem. Continuons. Je reviendrai sur cet aspect-là, la venue de Jésus et l'établissement d'un royaume visible sur terre. Avec où il réunit les justes. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. L'éveil, c'est 9h, minuit, 3h du matin, 6h du matin, 6h15, 6h10, il fait clair. Donc, voilà qu'on peut voir que David, à certains moments, ne dormait pas du tout et était branché sur Dieu. Et je vous le dis, il faut être branché sur Dieu, les amis. Il faut chercher, il faut désirer profondément cette attitude. Faites attention d'être une machine à scier du bois toute la nuit. Soyez des êtres spirituels, chers amis. Alors, car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Nous voyons là, réellement, la situation situation profonde de David, du croyant David, c'est une relation de paix, de joie, de bienfait, de délice avec Dieu. Et cela, c'est extrêmement important. Cette relation de délice, de bienfait, de délectation spirituelle avec Dieu, de paix, finalement. Comme Jésus l'a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, c'est cela. Et c'est une paix qui surpasse toutes les paix, artificielles et fausses, ou mitigées, humaines. Et donc, je suis dans les psaumes pour ceux qui viennent d'arriver, psaume 63, au verset 8 et 9. Tu es mon secours, je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Une âme attachée à Jésus, à Dieu, est réellement la vraie vie que Dieu a voulu entre lui et nous. Et pensez bien, ça m'arrive de visiter des églises où il n'y a plus de pasteurs, ou parfois il y en a, et c'est des anciens, même s'il y a un pasteur qui prêche ou qui préside, etc. Ce qu'on trouve de bien chez les baptistes, c'est la doctrine. La doctrine est claire. Je ne sais pas chez les calvinistes, je ne sais pas chez les pentecôtistes. Je n'ai pas été voir. Si je vais mettre mon nez un jour, je vais m'asseoir dans les cultes, ce que je ferai un jour, quand je serai un peu plus libre, je serai moins coincé par mes responsabilités, je le ferai. Mais c'est clair que ce qu'on trouve chez les baptistes, c'est un amour de la bonne doctrine, du bon dépôt. Et c'est quelque chose de fondamental. De fondamental. Eh bien, il faut déjà savoir, j'ai été à Mont-d'Or, en Auvergne, à une exposition biblique. Ce sont des amis qui la tiennent, une belle exposition biblique qu'ils ont achetée, qui est faite par une autre église et qui était exposée. Et puis, à un moment donné, je circule dans l'exposition biblique. J'y suis allé 2 jours et Bénédicte une journée. J'aimais y aller dans la rue, contacter des gens, les inviter à venir et surtout prier pour cette exposition biblique, pour les âmes, surtout, qui viennent, pour qu'elles soient poussées à venir et qu'elles trouvent quelque chose. Et que ceux qui sont là, en permanence, donnent la nourriture nécessaire. Et il faut être assez juste, il faut être à propos, il faut être bien dirigé par le Saint-Esprit pour tenir une exposition biblique. Parce que les personnes sont si différentes, très différentes, quand elles viennent là. Et le but n'est pas de les heurter, mais le but c'est aussi de les nourrir avec les vrais mots, les vraies indications qu'elles ont besoin. Si Dieu donne la peine de venir, il faut leur donner ce que Dieu a prévu de leur donner, pas nous. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait le commentaire tout à l'heure du verset 6, « Mon âme sera rassasiée comme de maigrats et succulents, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche se célébrera. » C'est fondamentalement un acte de foi de David qu'il y aura sur le mont Sion à Jérusalem une réunion de tous les élus, de tous les saints, de tous ceux qui sont sauvés, qui ont eu une vie réellement avec Dieu sur terre, une vie dans la foi, dans le Saint-Esprit, et pardonnés et justifiés par le sang de Jésus. Il y aura une réunion, il y aura un grand banquet. Les noces de Cana, où Jésus a fait voir pour la première fois sa gloire, parce que plus tard, il verra, on manifestera toute sa gloire. Ça ne sera plus un signe, ça sera la réalité sur terre, sa gloire sur terre, la venue sur terre, et là, en présence de tous, il y aura un festin de mets succulents, de vin vieux clarifié, et le voile qui couvre toutes les nations, qui est la mort, la souffrance, le deuil, etc., sera anéanti. Et il y aura une immense joie, une immense allégresse sur le mont Sion. Cela, c'est fondamental dans la foi. C'est-à-dire que la venue de Jésus sur terre et l'établissement de son royaume est dans le plan de Dieu, dans la Bible. Prenez le psaume 89, prenez d'autres passages, c'est impossible de mettre ça de côté. Eh bien, dans cette exposition biblique, qui a été écrit par une église, à un moment donné, le royaume de Christ sur terre est supprimé. L'enlèvement de l'Église est supprimé. Et nos amis avaient mis une petite étiquette blanche en disant, attention, il y a ici une omission, il faudrait... Bon, moi, j'ai commandé cette exposition publique, je couperai le panneau en deux, je créerai avec les gens de l'Église et avec une société de publicité ici à 1 kilomètre de chez moi, dans notre village, je créerai le panneau complémentaire qui est extrêmement important, où c'est l'enlèvement de l'Église, c'est l'avenue, le règne de Christ, et ce qu'est le règne de Christ sur terre. Je ferai faire ce panneau. Eh bien, chers amis, si la première fois que j'ai vu l'exposition publique, j'étais comme un ego, j'avais rien vu. Et puis, j'ai été plus attiré par les petites étiquettes blanches que mes frères, mes amis de Ussel avaient placées, et je me suis rendu compte, mais vraiment, qu'il y avait quelque chose d'horrible, c'est qu'on avait retiré des passages magistraux de la Bible, de cette exposition publique, des vérités bibliques, des prophéties bibliques. Il faut savoir que ce verset 6 dans le psaume 63 n'est pas une allégorie, n'est pas quelque chose de symbolique. Sinon, les noces de Cana n'auraient pas de sens dans Jean, chapitre 2, lorsque, pour finir, les 480 litres à 600 litres d'eau sont changés en vin, ce qui aurait été inutile, il manquait peut-être 100 litres de vin, c'est tout, hein. C'est un signe de la grande gloire de Christ pour réjouir toutes les nations de son Saint-Esprit, de ses biens glorieux venus de lui, de sa nature même. À travers les humains qui l'ont aimé, il veut achever en eux ce qu'il aura commencé quand ils ont vécu par la foi sans le voir sur la terre. Cette abondance de vin, c'est l'abondance des biens messianiques qui défigure quelque part nos êtres infirmes, nos êtres imparfaits, et qui leur donne une figure glorieuse, une figure nouvelle, une figure semblable à celle de Christ, comme Jean le dit dans sa première épître de Jean au chapitre 3. Lorsque nous le verrons, lui viendront semblables. Ou Paul, il dit dans 2 Thessaloniciens, il dit « Dieu est fidèle, il est fidèle, ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera. » Finalement, le psaume 63 est une confession de foi très puissante. Et il est clair que si j'achète cette exposition biblique, parce que quelqu'un nous offre un local pour un euro symbolique à Virton, à partir de la mi-septembre ou fin septembre, il y aura cette exposition. Mais il y aura un panneau coupé en deux et un nouveau panneau dedans. Et je vais analyser tous les panneaux, si ça, il y a encore des autres points comme ça. Il faut que les personnes reçoivent la parole de Dieu telle qu'elle l'est, sans rien ajouter, sans rien retrancher. C'est extrêmement important à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que après, j'en viendrai à l'épître de Jude. Alors, la communion profonde de David avec Dieu, versets 7 et 8, « Je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » C'est réellement ce qui se passe dans l'église de Philadelphie, au chapitre 3 d'Apocalypse. Il y a une communication, il n'y a pas de porte fermée entre Dieu et cette église, ces croyants. Ils sont sans puissance humaine, mais ils ont le cœur attaché à Dieu, à sa parole, à sa révélation. Et ils sont bénis, ils sont protégés dans les périodes de tribulation qui sont annoncées sur la terre. Mais si vous regardez bien l'église d'Éphèse, qui est extrêmement, qui a été très importante dans l'histoire de la chrétienté, l'église d'Éphèse a perdu son premier amour, n'a plus de communication avec Jésus. Pas d'attachement à Jésus. Elle a une très bonne théologie. Les gens sont baptisés quand ils sont convertis. Et cette église fonctionne. Elle a certainement des services pour les personnes âgées. Elle a certainement des services pour les veuves, les orphelins, pour les étrangers qui arrivent. Elle a des œuvres, de nombreuses œuvres. Elle sait reconnaître ce qui est menteur et qui ne l'est pas. Mais il y a un mensonge qu'elle ne voit pas. C'est qu'elle n'aime plus être en relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et quand j'analyse suite à mes passages dans différentes églises, je me suis dit, j'écoute, je vois, je me dis, bon, dans les sept églises d'Apocalypse, je peux dire où en est l'église que je visite ou que j'ai visitée, après avoir prié et réfléchi, sans esprit d'animosité, de critique, de jugement, mais simplement parce que la parole de Dieu est un outil de discernement. Et la doctrine chez les baptistes ne suffit pas. Il faut une vie spirituelle forte, intérieure, avec le Seigneur Jésus. Il faut un amour profond pour le Seigneur. Et il faut le connaître. Viens, suis-moi. Il faut le connaître. Et ce que nous pouvons connaître de Jésus, de Christ, est au-delà, infiniment au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons, dit Paul. Et il dit que nous avons connu l'amour de Christ, sa profondeur, sa hauteur, sa largeur. Imaginez que son amour est plus grand que l'espace de l'univers. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'expérimentation d'une relation profonde avec le Seigneur Jésus est le pilier de la vie chrétienne et de la vie des églises chrétiennes. Ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas la doctrine. J'insiste là-dessus. La doctrine honore la révélation biblique. La doctrine honore et nourrit notre cœur pour qu'il ne s'égare pas. Mais à l'heure de la conversion, à l'heure de notre renoncement au péché, à l'heure de notre consécration à Jésus, si réelle, elle est réelle, l'amour du Saint-Esprit en nous pour Jésus-Christ va prendre tout l'espace. L'amour du Saint-Esprit pour Jésus-Christ va prendre tout l'espace. Et il va nous habiter, et il faut toujours être fidèle au Saint-Esprit, il ne faut pas l'attrister. Il est fondamental, bien sûr, après, parce que nous sommes marqués par le péché, d'éviter les dérives sentimentales, ou d'écouter les faux prophètes, les faux messagers, les faux évangiles. Il faut avoir un bon dépôt biblique, une bonne doctrine. Donc, je dis bien, l'expérience de Christ est première. Et l'expérience de Christ ne se fait pas sans l'habitation et l'activité profonde et acceptée du Saint-Esprit. Ensuite, de l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie. Ensuite vient la doctrine. La doctrine, c'est un ensemble d'éléments pris dans la Bible pour faire une charpente, pour mettre des bois ensemble avec des chevilles, etc., pour mettre tout un ensemble organisé dans nos pensées, qui sont bien fragiles. Mais la théologie, et la bonne théologie baptiste, n'est pas à l'œuvre pour le salut. Le salut, c'est le sang de Christ. Le salut, c'est l'œuvre de Christ. Et, bien sûr, dans la doctrine de chrétienne, des évangéliques baptistes, on reconnaît l'œuvre de Christ à la croix, on reconnaît le salut par grâce. Mais évidemment, si on en reste à des mots, qu'on n'a pas l'expérience même de Christ, il y a un gros problème. On ne pourra pas résister à l'heure des épreuves qui vont venir, on ne pourra pas résister devant le péché, et on le voit dans nos églises, on le voit dans la jeunesse de notre église, ils ont été évangélisés rapidement, ils ont été baptisés, et on a cru que c'était fait. Mais non, ça ne va pas comme ça. Si quelqu'un n'a pas une expérience profonde de Christ, ne le baptisons pas. Il faut pouvoir lui laisser le temps à Dieu et à la personne d'évoluer ensemble. Et nous ne sommes pas dans un challenge où nous pouvons dire, nous glorifier d'avoir eu X baptême cette année-ci, l'année d'avant, l'année il y a 10 ans ou dans 5 ans, ça ne sert à rien. Lisez la première aux Corinthiens, Paul ne se glorifie pas d'avoir baptisé quelqu'un à l'église de Corinthe. Juste la famille de Stéphanas, quelques-uns, et puis c'est tout. Et il le dit clairement, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour savoir le Christ crucifié en vous. Voilà. Première aux Corinthiens, chapitre 1. Donc, je reprends le psaume 63. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Bien sûr, la droite, c'est Christ, hein. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les enfers et les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Évidemment, ceux qui sont hostiles à l'œuvre de Dieu sont condamnés à aller en enfer. C'est évident, à l'étang de feu et de soufre. Et ils sont livrés au chacal, à la proie, au glaive. Pensez à Armageddon. Et déjà avant Armageddon, quelques années avant, il y a Ézéchiel 38, les armées qui vont envahir Israël bientôt seront détruites par des grêlons de jusqu'à 33 kilos, 27 à 33 kilos. Et ça se prépare. La coalition du Nord, depuis la mi-novembre 2019, est créée. Et cette coalition du Nord a pris des décisions, là, il y a 10 jours, pour envahir les Kurdes de l'Irak et de la Syrie. Vous ne le voyez pas à la télévision? Mais moi, j'ai des contacts dans les familles syriennes, je vais voir et je leur demande ce qui se passe. Comme eux ont des portables, et que leurs familles ont des portables, on sait des choses qu'on ne nous dira jamais ici, parce qu'on ne veut pas nous instruire réellement à la télévision sur les vrais faits qui pourraient éveiller notre curiosité biblique et augmenter notre foi. Alors, si des ennemis de Dieu sont livrés au glaive et à la proie des chacals, les chacals ne sont pas partout. J'étais en Israël. J'ai vécu là 12 nuits. Et ma fenêtre était ouverte, il faisait tellement chaud, comme ces temps-ci. Il faisait 32 degrés au mois d'octobre, en 2008. Et donc, heureusement que nous dormions au premier étage. Mais les chacals criaient toute la nuit, là, à 20-30 mètres de la maison. Les chacals ne sont pas en Norvège, ni en France. Ils sont là-bas. Je pense que c'est indicatif. Et le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Le roi se réjouira en Dieu, donc c'est Christ. C'est Christ. Je vous ai commenté le psaume 63. Évidemment, 64 est très beau, comme tous les psaumes. Mais j'ai à cœur de proposer le psaume 65. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. On accomplira les vœux qu'on t'a fait. Vous avez vu? Psaume 65, verset 2. Ça rejoint tout à fait, ce qui est dit au psaume 63, verset 6. Et dans Ésaïe 25, verset 6 à 9. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. On accomplira les vœux qu'on t'a fait. Donc, les engagements de foi qu'on a pris s'accompliront pleinement. Il n'y aura plus le frein de Satan, il n'y aura plus le frein de la chair. On aura tellement reçu de la puissance glorieuse de Christ qu'on achèvera, ça sera achevé en nous. On y participera, bien sûr. Ça ne se fera malgré nous, mais ça sera dans une foi qui explosera de grâce. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes qui l'aiment. Qui aime Dieu, qui a accepté Christ. Mais il faut bien savoir que le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes y viennent. Ne commençons pas à nous-mêmes dire « Oh, il y a un tel, une telle, etc. » ou « tel peuple, ils ne seront jamais sauvés. » Nous ne pouvons pas le dire. Le vœu le plus profond d'un croyant, c'est que tous les hommes viennent à Christ et soient sauvés, soient au rendez-vous. Donc c'est fondamental d'accepter ce verset. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Comme dans Jean chapitre 12, quand Jésus dit « Quand j'aurai été élevé, glorifié, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il est clair que si on ne veut pas répondre, ça c'est un autre problème. Dieu a donné la liberté à l'homme. Satan a donné le péché. Adam a donné le péché à la descendance. Mais si on entend l'évangile, on peut choisir la vraie ou la fausse liberté. L'affranchissement de la fausse liberté est très intéressant avec Jésus-Christ. Alors on est dans l'amour, dans la gloire, dans la vérité, dans l'honneur, dans la résurrection. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. C'est quand même quelqu'un de très sérieux. Il sait très bien qu'il pêche. Iniquité, ça veut dire, je sais que c'est interdit et je le fais. Ou je l'ai fait. J'ai eu le toupet de faire le contraire de ce que tu me demandais. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Donc, psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis. Jésus n'a-t-il pas choisi ses disciples? Pour qu'il soit avec lui, en grec, communion. Pour qu'il le suive, hein, qu'ils adhèrent à sa parole, son enseignement, à sa personne, et puis ensuite, qu'ils proclament l'évangile, la croix, la résurrection, le pardon des péchés, et qu'ils combattent les maladies et les démons. L'œuvre de l'Église est toujours la même. Dans Jean chapitre 14, Jésus le dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et qui vous est établi. Donc ici, il y a quelque chose de formidable, de gracieux, de fondamentalement biblique et vrai dans ce psaume 65. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. De nouveau, le mot rassasié. Comme au psaume 63, verset 6, mon âme sera rassasiée, comme de mets gras et succulents. Rassasié, ça veut dire, il y a des personnes, quand on est à table, on mange. Et à un moment donné, la plupart des personnes s'arrêtent. Elles ont assez mangé, elles ont assez bu, elles s'arrêtent. Elles connaissent, il y a quelque chose qui les freine, elles s'arrêtent. Elles sont rassasiées. Puis il y a des personnes qui ont une tendance goulue, ils ne s'arrêtent jamais, ils ne sont jamais rassasiés. Ils avalent, ils engloutissent. Et c'est une maladie psychique. C'est une force de la convoitise. C'est un vestige du péché qui est là. Mais normalement, rassasié, ça veut dire on a mangé ce qu'il fallait, ce qui était bon pour notre croissance, pour avoir des forces. Et au-delà de ça, on n'a pas besoin. Donc, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Chacun aura sa part selon son besoin de bonheur. Chacun aura sa part selon le désir de son cœur, selon son engagement qu'il a eu sur terre avant, selon l'engagement qu'il a eu en Christ. Et il est clair que l'appétit est différent parmi nous. Quand je m'assieds dans des assemblées à droite et gauche, c'est que c'est le moment des chants. Quelqu'un est au pupitre, on prend des chants, il y a quelqu'un au piano, etc. Il y a, parfois, on voit que toute l'assemblée, même s'ils ne sont pas nombreux, on chante vraiment du fond du cœur, et c'est comme si on était 2000. C'est le même effet. On voit que les âmes sont rassasiées de louer Dieu. Et puis, à d'autres places, on voit, on est 15, 20, 50, 80, on chante, mais chacun chante, mais sans se forcer, je dirais, sans exploser d'allégresse. Ils chantent, oui, ils aiment bien chanter. Ils ont vrai chanté, ils connaissent les cantiques, etc. La musique est belle, mais sont-ils rassasiés? Je vois que les personnes qui sont rassasiées au moment où on chante, on adore Dieu dans l'église, dans toutes les églises, c'est celles dont le cœur parle, dont toute l'âme parle au moment où leur bouche s'ouvre pour louer Dieu. Chanter, adorer n'est pas une habitude. Chanter et adorer n'est pas une coutume. Chanter et adorer est une œuvre du Saint-Esprit. Et c'est une œuvre qui doit nous habiter et nous dépasser, nous pousser vers le haut, vers Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1-3, cherchez les choses d'en haut, non pas les choses terrestres. Au moment où on est en train de louer le Seigneur personnellement, tour à tour, etc., et au moment où on est en train de louer, adorer Dieu, c'est cette montée spirituelle vers Dieu qui est nécessaire à la vraie croissance des chrétiens et d'une assemblée. Ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas la connaissance des chants, ce n'est pas la coutume qui fait vivre une église. Ça, tôt ou tard, ça fait mourir. Je sais bien que d'un dimanche à l'autre, d'un mois à l'autre, on n'est pas toujours au zénith. On n'est pas au point, on n'est pas des phénix dans la foi, évidemment. Donc, il se peut arriver que je suis tombé au moment où tout le monde était un peu rataplat, etc. Fatigué spirituellement. Mais si c'est tout le temps, il y a un problème. Si c'est de temps en temps, je dirais, c'est normal. Mais normalement, l'œuvre de l'Esprit Saint est là pour mobiliser nos cœurs et nos âmes dans l'adoration, dans l'intercession et dans l'allégresse spirituelle. L'allégresse spirituelle, c'est pas faire du chambard, du théâtre, évidemment. Ce sont les cœurs qui s'expriment, les âmes qui vivent. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. La véritable adoration se rassasie, se nourrit de la connaissance de la sainteté de Jésus-Christ, de la sainteté de notre Père des cieux. C'est comme ça qu'on s'est vraiment adoré. Et on est en connexion et on se nourrit de la véritable richesse, de la véritable personnalité, très sainte, trois fois sainte de Dieu. Dans ta bonté, psaume 65, verset 6, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Par ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Il m'arrive de visiter des familles qui vont bien, mais des familles qui vont mal. Même des familles chrétiennes, parfois, qui vont mal. Et comment faire, les amis? Comment faire, des fois? Les problèmes traînent depuis longtemps. Et puis, il y a des familles aussi qui ne sont pas chrétiennes, qui ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement, et qui cherchent Dieu, qui ont besoin qu'on les visite. Mais comment faire? Eh bien, il faut qu'il y ait un prodige de Dieu. Je regrette de le dire. Moi, je ne vais pas amener un prodige. Et je pense que ce verset-là, psaume 65, verset 6, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. » Tu es capable de faire une œuvre merveilleuse dans cette femme qui n'aime plus son mari, dans cette femme qui n'aime plus aller à l'église, et son mari va tout seul, il est triste, ou l'inverse, hein, ou l'inverse. La femme va à l'église, elle est triste de voir son mari qui collabore jamais. Hein, il y a souvent ça. Hein, on connaît ça. L'homme ou la femme vient au culte, profondément croyant, et l'autre, il ne vient pas. Il renacle. Et parfois même, le croyant en question n'ose pas venir tous les dimanches parce qu'il a l'enfer à la maison, ou la croyante. Elle vient une fois de temps en temps. Une fois sur deux, sur trois. Autrement, c'est le pétard, des reproches, etc. Et il est clair qu'il faut un prodige pour changer les choses. Oui, les amis, j'y crois. Je crois au prodige de Dieu. Il est prodigieux de voir quelqu'un qui était buté, fermé, qui tout d'un coup avance avec amour vers Jésus-Christ. Pour moi, c'est un grand prodige. Et pour vous aussi, je l'espère. Et tu nous exauces par des prodiges. Mais pourquoi tu nous exauces? Parce que j'ai adoré, j'ai communié à la sainteté de Dieu. J'ai vraiment aimé Dieu dans sa richesse, dans sa sainteté. Je lui ai demandé que des grâces coulent du ciel sur tous ceux qui m'entourent, même sur mes ennemis. Et des prodiges, évidemment. J'étais dans un couple hier, où vraiment c'est, il y a de la souffrance, oui. J'ai été gentiment, et puis voilà. Et je demande un prodige. Et j'écrirai aussi, dans cette famille. Et puis tout à l'heure, dans l'après-midi, je vais à la poste. Je sors de la poste. J'avais déjà été à l'appareil automatique devant la poste, à l'Ouio. Je ressors et puis je repasse une deuxième fois parce que j'avais besoin de savoir, vous savez, solde du compte et puis après état du compte, c'est pas la même chose, et puis etc. J'avais oublié de état du compte. Donc je vais voir. Et puis j'avance de quelques mètres vers ma voiture et puis je vois une femme au téléphone avec un bébé dans les bras, une femme d'origine marocaine, une jeune femme d'environ, je sais pas, 25, 26 ans, dans tous ses états, et qui parlait français difficilement, sans doute qu'elle parle toujours arabe chez elle, mais elle parlait avec quelqu'un qui ne parle que le français. Et alors, elle essayait de se contenir, elle était en colère, elle essayait de se contenir, parce que l'autre en face, oui madame, soyez patiente, on prendra soin de vous, et tout ça. J'avais compris le cirque humain de celui qui, de toute façon, a appris à être au téléphone, à ne pas broncher, et de l'autre qui, à l'autre bout, réclame et a l'impression de ne pas être compris. C'est des dialogues de sourds. Il n'y a pas de compassion et d'amour là-dedans. Alors, j'étais pas loin de l'auto. Je retourne vers la personne. Je dis, madame, est-ce que je peux vous aider? Il y a des gros problèmes. J'en voyais que son bébé dans un jeune état. Oui, monsieur, vous savez que j'habite au 8e étage et l'ascenseur est en panne. Depuis plus d'une semaine. Et moi, j'ai des bébés. J'ai ce bébé-là et j'ai encore deux autres enfants. J'ai des courses à faire. Mon mari est parti toute la journée travailler. J'ai 8 étages à monter et à descendre, combien de fois par jour, avec les bébés dans les bras et tous les paquets. Je suis en train de lui expliquer que j'ai déjà téléphoné plusieurs fois pour qu'on vienne remettre l'ascenseur en route. L'ascenseur, cette société immobilière, a mis des ascenseurs dans tous ses bâtiments, dans toute la région de l'Est. Et ils ne viennent pas réparer. Et ils me répondent toujours de la même façon. Alors, je dis, quel est votre prénom? Elle me donne son prénom arabe, que j'ai du mal de prononcer, mais je trouve charmant. Et puis, je dis, madame, je vais vous laisser, je vais dans ma voiture, et je vais prier pour vous. Je vais demander à Dieu d'entendre votre cri, votre supplication. Et je tends mes mains vers le ciel et je dis, il a toujours écouté, il a toujours entendu, j'en suis sûr. Il est vivant. Elle était profondément touchée. Et je dis, si, je vous donne ma carte, si dans la prière que j'ai faite, dans la demi-heure qui vient, le quart d'heure qui vient, ce n'est pas arrangé, retéléphonez-moi, je demande à toute ma famille de prier pour vous. Nous gens de notre assemblée. Mais nous sommes sûrs que Dieu répond à la prière. Alors, elle était apaisée, elle était touchée. Alors, pourquoi elle est touchée? Parce que dans l'islam, on sait que Dieu est grand. Certains Français ne sont pas du tout convaincus de ça. Mais elle, sans doute à la nationalité française, tout en étant dans son cœur encore autre chose que française. Et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Ces gens qui ont une perspective sur Dieu qui est assez forte, même si c'est pas celle des chrétiens. Et donc, verset 6, psaume 65, verset 6, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. » Eh bien, Seigneur, fais que cet ascenseur soit réparé, Seigneur. Que ces fonctionnaires qui s'en foutent se déplacent et aillent réparer ça. Que cette pauvre femme qui est seule avec ses gosses et tout, et les courses. Alors, je vais vous en rencontrer encore une meilleure. J'ai des amis en Flandre, un vieux pasteur qui a 90 ans et son épouse, des braves, ils ont eu le Covid. Ils sont au 14e étage. Et parce qu'ils ont eu le Covid, ils ne peuvent pas prendre l'ascenseur, même avec un masque, même qu'il n'y aurait personne dans l'ascenseur. Et ils doivent se taper les 14 étages par l'escalier, montée et descente pour faire les courses. Deux personnes de plus de 90 ans. Est-ce que vous trouvez tout ça normal? Cet amour, où est-il? Cet amour divin de Christ, où est-il? Quel est ce désert? Quelle est cette horreur? Mais clairement, chers amis, moi je serre sur le bouton de l'ascenseur, je prends mes amis par la main, je les mets dedans, et on descend. Mais c'est quoi tout ça? Pour qu'ils fassent une crise cardiaque dans l'escalier? Ou qu'ils ne descendent plus? J'ai connu un couple comme ça, qui avait une corde, et qui passait une corde par la fenêtre, de plusieurs étages, avec un panier, on mettait les courses dans le panier, et ils tiraient sur la corde, et ils étaient vieux. Est-ce que c'est si facile que ça, de tirer sur une corde pendant des minutes et des minutes, pour que le panier arrive, sans le renverser quand il arrive en haut? Où en est-on dans les détails de la vie? Chers amis, je veux vous dire, les prodiges, c'est tous les jours qu'il faut les demander. C'est tous les jours des prodiges qu'il faut demander à Dieu. C'est des prodiges d'amour, des prodiges de compassion, des prodiges de vérité, de compréhension. Le vrai prodige que Dieu a voulu laisser à ses apôtres, Jean 13, verset 33-35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra. » Chers amis, les chrétiens doivent être un signe. Et s'ils sont insignifiants, c'est-à-dire qu'ils sont non salés, ils n'apportent plus rien, Dieu les rejettera. Ou c'est déjà peut-être fait. Psaume 65, verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Est-ce que vous... Je suis subjugué par un verset comme ça, moi. Un petit homme qui était un berger, qui devient un roi parce que Dieu l'a appelé. C'est pas lui qui a voulu. Qui a eu que des tuiles. Puis il y a eu ses péchés. Tout s'est compliqué à cause de ses péchés. À cause de ses fils, Absalom, etc., Adonijah. Mais ce qu'il y a, il sait que Dieu est l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il n'a pas une vision étroite de Dieu. Il n'a pas une vision stupide. Il est juif. C'est pas pour ça que les autres n'ont pas d'espoir et ne se tournent pas vers Dieu. Il sait que les autres se tournent vers Dieu. Il sait que les autres ont un regard sur Dieu. Et quoi? Il faut que le salut soit donné à ces personnes. Il y a donc dans la foi de David, la même foi que celle d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, tu es le père de toutes les nations, et que ta postérité sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer, que les étoiles du ciel, c'est clair, David participe à cette même foi. Et vous et moi, chers amis, avons-nous cette folle espérance? Mais pas insensé. Cette espérance qui va au-delà du monde glacial dans lequel nous vivons, cette folle espérance que tout le monde entier a besoin de Dieu. C'est encore un test de notre foi et de notre cœur, chers amis. Si nous n'avons pas cette perception, attention à nous, c'est que nous n'avons pas le regard de Dieu en nous, sur les autres. Alors on est comme ça, on a casé Dieu dans sa petite boîte et on croit que ça va marcher, ça ne marchera jamais. Dieu est le Père de tous les hommes et il veut sauver tous les hommes. Et il a envoyé Jésus et tous les chrétiens pour annoncer l'amour du Père aux hommes, qu'ils se repentent. Qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils soient au rendez-vous dans les demeures célestes, à l'abri du Très-Haut, tous en communion avec les anges, les archanges et les saints. Verset 7, psaume 65, verset 7. Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Donc les montagnes sont une image de toutes les nations, de tous les peuples du monde. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement des flots, le tumulte des peuples. Le verset 8 est extrêmement flagrant. Les mères mugissent. Les mères mugissent. Dans Luc 21, on voit qu'à un moment donné, les hommes vont être remplis de terreur au bruit des flots, du mugissement des flots. Oui, à un moment donné, dans la tribulation, il y aura des problèmes, des cataclysmes, oui. Mais les mugissements des mers et le mugissement des flots représentent aussi les mers, les flots, les nations dans le péché, les nations habitées par Satan, les nations folles, folles, sanguinaires, attachées à l'argent, attachées à la puissance, les nations menteuses. Il n'y a pas besoin d'avoir, d'être, même un myope peut comprendre ça aujourd'hui. Le tumulte des peuples. Lisez le psaume 2, vous verrez que, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Lisez le psaume 2. Dieu se rit du haut des cieux en les voyant. Il bénira son oint. Il protégera ceux qui lui appartiennent. Le psaume 2. Lisez le psaume 107. Vous voyez que les flots, les marins sont dans une barque. Elles descendent dans le creux des vagues. Elles remontent. Ils sont éperdus. Ils sont fous de peur. Ils n'arrivent plus à rien contrôler. Ce sont des marins. Le psaume 107. Et Dieu les mena au port, au lieu de destination. Il souffla, il arrêta la tempête. Ce psaume 107, ce psaume 2, Jésus a repris ce thème lorsqu'il était en train de prier dans la montagne, qu'il envoie ses disciples dans la barque. Il y a 104 kilomètres carrés à traverser. Et qu'est-ce qui se passe? Il est là sur la montagne, dans l'obscurité, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de phare, il n'y a pas d'infrarouge. Normalement, en tant que simple humain, il ne voit pas ce qui se passe sur la mer, mais en tant que Dieu, il le voit. Il sait que ses disciples sont, et il le savait avant, ils sont dans la barque, un grand tourbillon qui va couler le bateau. Et il les rejoint, il marche sur l'eau, il va les chercher, et il les mène jusqu'au bon port. Le psaume 107 est réalisé par Jésus-Christ lui-même. Le psaume 2 est réalisé par Jésus-Christ lui-même. Donc, quand vous voyez au psaume 65, verset 8, il apaise le mugissement des mers, le mugissement des flots, le tumulte des peuples, tout ce que nous entendons aujourd'hui, tout ce que nous voyons, Christ aura autorité et arrêtera tout ça. La venue de Christ, l'établissement de son royaume, l'autorité sur terre de Christ. Comprenez bien pourquoi j'ai dit tout à l'heure dans cette exposition biblique où ce n'est pas mis, c'est très grave. Retirer une vérité fondamentale de la Bible, c'est offenser Dieu. Même si l'Église est nombreuse, même si les pasteurs sont brillants. Verset 9. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Vous voyez? Donc, il y a des gens effrayés, des autres qui sont heureux. C'est ça. Ceux qui sont séparés de Dieu, ceux qui sont en communion avec Christ. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu en fertilises ainsi. Donc, verset 10. Clairement, nous voyons que la terre est fertilisée et donne toutes ses richesses. Or, actuellement, 35 000 km² de forêt disparaissent tous les ans par les incendies. Et des milliers de kilomètres disparaissent sous forme de désert. On peut estimer à 50 000 km² tous les ans l'espace de vie qui disparaît, qui est remplacé par la mort. Jusqu'à quand, chers amis? Dans Jérémie 51, verset 36, il est dit qu'il n'y aura plus d'eau à la source de l'Euphrate, sur le mont Arara, au lac Van, en Turquie, anciennement l'Arménie. Il n'y aura plus d'eau dans le Nil. C'est écrit dans Ésaïe. Pourquoi? Parce que nous nous moquons de Dieu. La sanction de Dieu est là, il faut plier les genoux. On n'a pas l'air de vouloir les plier. On n'a pas l'air de prendre les avertissements de Dieu au sérieux. Dans notre orgueil et notre folie d'homme sans Dieu ou de croyant vivant comme le monde, nous ne prenons pas les prophéties de Dieu au sérieux. Lisez Zacharie chapitre 14. Ceux qui ne se tournent pas vers ce lieu saint de Jérusalem où Jésus est mort à la croix, il est ressuscité là où il viendra régner, tous ceux-là qui ne se tournent pas, leur pays, leur nation n'auront pas de pluie. Donc clairement, le verset 10 représente l'abondance d'un royaume messianique béni par Christ et d'une nature régénérée, renouvelée, qui ne connaît plus la mort, qui ne connaît plus cette sécheresse. Verset 11, « En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens, tes pas versent l'abondance, les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. » Voilà une image du règne de Christ. L'image du règne de Christ, où les hommes n'ont plus besoin de tracteurs, qui coûtent le prix d'une maison pour cultiver, où ils travaillent avec leur houe, leur pioche, juste le petit lopin qui leur est nécessaire. Chers amis, j'ai fait un commentaire des psaumes 63 et du psaume 65, parce que je les trouve, ce sont de bons préambules pour nous chrétiens. Prenons maintenant l'épître de Jude. L'épître de Jude est une épître qu'on ne lit pas souvent. Mais qui est Jude? Vous savez bien que M. Joseph de Nazareth a eu une épouse, Marie. Ils ont eu un enfant qui ne vient pas de la chair. C'est un enfant qui ne vient... Il n'y a pas de cellule du corps de Marie. Marie était une mère porteuse. Et Joseph n'a pas fécondé Marie pour avoir Jésus. Jésus est venu par l'œuvre du Saint-Esprit sur terre à travers la grossesse et l'accouchement de Marie et à travers son enfance, son adolescence, sa vie d'homme jusqu'à 30 ans en travaillant de sa main avec ses frères, sa famille, même en l'absence de Joseph qui sans doute était décédé à un moment donné. Et puis il a prêché pendant 3 ans et il s'est offert sur la croix pour nous sauver, pour payer la dette des hommes. Il est ressuscité, il est vivant, il est au ciel, il reviendra. Jésus a laissé derrière lui une famille naturelle, la famille de Joseph et de Marie, qu'il avait pris en charge jusqu'à 30 ans. Il était l'aîné, et donc il a pris en charge. Et donc, parmi José, Jude, Jacques, ses frères, il y a 4 frères, il y a aussi des sœurs, eh bien, il y en a 2 qui ont servi le Seigneur. Jacques, il y a plusieurs Jacques. Et Jacques, celui qui était responsable de la communauté de Jérusalem, l'épître de Jacques, James en anglais, et Jude, l'épître de Jude. Alors, voici ce qui est dit dans l'épître de Jude, un jeune homme, un serviteur de Dieu, qui a grandi toute sa jeunesse avec Jésus, notre Seigneur. Ils ont vécu comme des frères, vraiment comme des frères, alors que Jésus n'était pas engendré ni par Joseph et Marie, mais Jude a été engendré par Joseph et Marie. Il est dit clairement dans Matthieu, chapitre 1, verset 30, que Marie n'a pas connu d'homme jusqu'au jour où elle a mis Jésus-Christ au monde. Donc après, elle a connu. Et dans Galates, chapitre 4, verset 14 ou 4, il est mis qu'une femme née sous la loi, Marie, donc une juive, une femme née sous la loi a engendré le Fils de Dieu. Et le mot, c'est guné. Et le mot guné en grec veut dire que c'est une femme qui a eu des relations avec son mari. C'est pas une vierge. C'est vierge parthénos. Donc elle était vierge parthénos pour mettre Jésus au monde. Ensuite elle était guné, c'est-à-dire elle a eu des relations affective et sexuelle avec Joseph, elle l'a eu, 5, 6, 8, peut-être enfants, dont Jésus a pris soin jusqu'à l'âge de 30 ans. Bel exemple pour nous. Bel exemple pour toutes les familles. Que dit Jude? Bien sûr, je vais commenter cet épître mercredi et vendredi. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Doulos, ça veut dire esclave. Serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, ils sont aimés en Dieu, le Père. Gardez pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Voilà, sur deux versets, une fortune spirituelle. À ceux qui ont été appelés. Je pense que quand on va chez le dentiste, chez le cardiologue, on a demandé à aller et on a un rendez-vous. Et on s'y présente. C'est ce qu'on a besoin. Mais quand on est pécheur et qu'on se plaît dans le péché, dans son orgueil personnel, on ne prend pas de rendez-vous avec Dieu. C'est Dieu qui a fixé un rendez-vous dans son carnet. Lui, le cardiologue, celui qui connaît mon cœur, il a fixé un rendez-vous et il m'appelle au rendez-vous pour soigner mon cœur. C'est un meilleur médecin que tous les médecins du monde. C'est le médecin divin. Il convoque ses malades. Il convoque les pécheurs. Il les appelle. Et c'est pour ça que je vous lis dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. J'espère que vous comprendrez mieux ce passage de Romains 8. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc il sait, hein, c'est pour ça qu'il a inscrit notre nom, peut-être 2 heures avant la mort, peut-être à 4 ans, à 6 ans, à 9 ans, à 30 ans, 35 ans. Il a mis un endroit où il va nous appeler. L'appel de Dieu retentit dans le cœur de tous les hommes. Mais qu'en faisons-nous? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, il nous voit tous d'avance, avant qu'on soit même engendrés par le papa et la maman. Et donc, pensez à cette âne, quand Jésus rentre dans Jérusalem, il est dessus. Déjà, Zacharie, plusieurs siècles avant, Dieu le connaissait, cette âne. Dieu nous connaît d'avance, de toute éternité. Il sait de quel ventre nous sortons, de quel papa nous venons. Et ce qu'il y a, il nous a connus d'avance. Pourquoi? Pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Afin que son fils soit le premier-né, donc le frère aîné, comme Jésus a été pour sa famille, de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, donc ceux qu'il a voulu sauver, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, c'est-à-dire pardonné leurs péchés. Et ceux qu'il a justifiés, donc pardonné les péchés, rendus, déclarés innocents, il les a aussi glorifiés. Donc, le but de Dieu en nous appelant, comment il nous appelle? Peut-être que moi, j'ai rencontré quelqu'un sur le trottoir ou un jour, et puis il m'a parlé du Seigneur, vraiment, qui m'a, une fois, ça m'a touché. Alors qu'avant, ça ne me touchait jamais. Peut-être que j'ai été travailler chez quelqu'un, et puis ce quelqu'un, là, me parle du Seigneur Jésus, pouf, ça ne fait rien. Et puis tout d'un coup, 2 ans après, quelqu'un d'autre m'en parle, paf. Le signe est donné, le signal est donné, le rendez-vous dans le carnet de Dieu est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je réponds ou je ne réponds pas? Si je ne réponds pas, c'est ma responsabilité. Il ne faudra pas pleurer après. Il est possible que Dieu appelle 2-3 fois, mais il ne faut quand même pas croire qu'on peut se moquer de Dieu. Je vous lis dans Marc chapitre 3, verset 13. Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Donc, Jésus sait qui il appelle ce jour-là à telle heure. Et c'est pas un autre. Ça vous concerne personnellement. Auprès de lui. Donc, c'est en relation. Il en établit 12. Il les mit debout. Enfin, ils étaient couchés dans le péché. Pour les avoir avec lui. Le mot avoir avec lui, en français, ne représente rien du tout. On dirait que c'est un grand égoïste. Mais non, c'est pas ça. En grec, koinonia, ça veut dire pour être en union, en communion avec lui. C'est une relation d'amour. Une véritable relation. Si vous n'avez jamais connu le vrai amour, c'est sûr que c'est un gros handicap pour comprendre le vrai amour de Dieu. Mais même si vous n'avez pas connu le vrai amour d'un cœur à cœur avec une personne, ça a été simplement physique. On peut avoir des enfants, avoir eu fait l'amour, mais ne pas avoir connu l'amour. Mais si vous n'avez pas encore connu l'amour, demandez à Dieu de vous révéler son amour. Jésus a dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Chers amis, le plus grand trésor qui change toute une vie, c'est l'amour de Jésus. Demeurez dans mon amour. Je vous en supplie, désirez connaître l'amour de Jésus. Jésus est amour. C'est une montagne d'amour infinie, incommensurable. Ça nous dépasse. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Si vous vous battez contre lui, vous êtes perdant. Si vous vous battez contre cet immense amour, vous serez qu'un débris. Vous serez toujours dans le stress, vous serez toujours malheureux. Laissez-vous gagner par l'amour de Christ, je vous en supplie. Alors Jude, chapitre 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père. Vous imaginez, aimés en Dieu le Père. Dans Jean, chapitre 17, Jésus prie, et il dit, je prie pour vous, afin que l'amour dont Dieu le Père m'a aimé soit aussi en eux, dans nous. Que nous fassions notre demeure en eux, ensemble, Père et Fils. Alors, c'est le vœu de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont aimés en Dieu le Père. Chers amis, dans l'épître de Jude, au verset 20, parce qu'il n'y a pas de chapitre, c'est une épître très courte, au verset 20, pour vous bien aimer, c'est-à-dire aimer d'un amour immense, infini, aimer comme Dieu aime. Parce que l'amour de Dieu vous a été donné quand vous avez accepté Jésus. Pour vous, bien aimé, parce que l'amour de Dieu vous a été donné quand vous avez cru en Jésus. Vous avez accepté Jésus. Vous édifiant vous-même, donc vous construisant. On grandit dans l'amour. On trouve des forces incroyables. Et on change. On se construit. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, c'est-à-dire très sainte confiance dans l'amour divin. Demeurez dans mon amour. Jean, chapitre 14. Alors, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, priant non plus par des pensées charnelles, je ne récite pas des chapelets, je ne récite pas des prières aux saints, je dis quelque chose qui vient de mon cœur, que Dieu me met dans mon cœur pour Dieu. C'est Dieu qui m'apprend à prier. La prière n'est pas une singerie, la prière est personnelle. Elle vient de mon âme, de mon cœur, de mon être. Et c'est Dieu qui me répond dans mon cœur, dans mon âme. Ça, c'est la foi. Vous reposant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est quoi? Nous sommes si fragiles, si faibles, si inconstants, c'est clair. Il faut se maintenir dans l'amour de Dieu. Quand je suis dans un bateau, dans la mer, il y a de la houle. Il y a au bord du bateau, il y a un bastingage, il y a des barres, il y a des plaques. Autrement, les trois quarts des gens qui se baladent là, ils tomberaient dans l'eau. On se maintient sur le bateau. Quand je vais à vélo, je tiens le guidon, je me maintiens sur le vélo. Quand je suis en voiture, pour ne pas avoir d'accident, je me mets sur le siège, je ferme la porte, je mets la ceinture, je tiens mon volant. Je me maintiens. Se maintenir, c'est un geste raisonnable et vrai, responsable. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est là la vraie sécurité. C'est là la vraie base de la vie. C'est là la vraie richesse. Maintenez-vous. Ne tombez pas en dehors. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jésus est déjà mort sur la croix pour moi. J'ai plus rien à attendre. Il m'a déjà tout donné. Mais qu'est-ce que je dois attendre? C'est de le voir face à face. Qu'est-ce que je dois encore attendre? C'est qu'il me change tous les jours. Comment? En lisant son évangile. Qu'il me parle quand je lis l'évangile, ses paroles. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, pour une vie avec Dieu qui soit toujours, qui ne tombe jamais, Dieu ne se retire pas de ma vie. Mais moi, je peux me retirer. Et donc, je dois me maintenir, je dois m'y attacher. Et je m'attache en attendant la miséricorde. J'ai tellement de défauts, tellement de faiblesses, qu'il faut tout le temps que j'attrape les mains du Seigneur, que je recours à lui, j'intercède, je lui demande pardon. Et je sais qu'il me pardonne. Je reviens à lui. Je sais qu'il m'aime et qu'il exerce sur moi son amour. Alors je me maintiens dans l'amour de Dieu. J'attends sans cesse sa miséricorde, sa compassion, son amour pour moi. Si un enfant qui fait des bêtises dans une maison, à tout bout de champ, si la maman ou le papa ou les deux n'avaient pas de patience, mais ils le jettent par la fenêtre. Comprenez bien. L'enfant sait très bien qu'il va encore faire des bêtises. Et il se maintient, il attend de la part de ses parents de la miséricorde. Il attend de cet amour-là, un vrai amour, qui pardonne, qui prend soin du petit pécheur qu'il est. De même pour vous, chers amis, pour moi, il en est ainsi avec notre Seigneur Jésus. J'en termine là, j'ai abordé l'essentiel de l'épître de Jude. J'y reviendrai mercredi. Que Dieu vous bénisse, travaillez vos cœurs, vos âmes, il vous bénisse vos ennemis, aussi, votre entourage hostile, qu'il entourage, qu'il la bénisse aussi l'entourage bienfaisant, ceux qui vous aiment. Qu'il encourage, qu'il bénisse vos enfants, qu'il encourage vos grands-parents, vos parents, et portez votre cœur vers le Seigneur. Votre regard sur lui, psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, au-dessus des montagnes. Il n'y a aucune montagne, aucun obstacle qui peut m'empêcher de regarder à l'amour de Christ. Il est plus haut que tous les obstacles. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.